15h50. On est 15 avril 2026. L'exceptionnel chroniqueur international David Chabot est en studio. Il revient des États-Unis d'Amérique. Salut, comment ça va?
Ben, c'est-tu qu'il fait beau? Pas de joke, là. Je me suis levé un matin, aux petites heures, je me dis... Tu sais, Miami, Orlando, Boischetel on the beach, le choix est évident.
Mais ici, ça dort bien. Les températures, ça dort bien.
Ouais, t'en trouves une fenêtre.
C'est ça, t'entends l'eau tomber, ça dort bien. C'est là-dessus qu'il faut bâtir, David.
Ouais, on compte pas assez souvent nos blessings au Québec.
T'as-tu entendu parler de Donald Trump à Miami?
Pas vraiment. Non, vraiment, là, honnêtement. De toute façon, j'étais là pour jouer au golf, je vous l'avais dit la semaine passée. Fait que là, moi, sur le terrain, j'étais tout seul au monde, là, fait que... Je checkais mes nouvelles. Ouais. Évidemment, Fox News, tout ça, ça parle de Donald Trump à côté 24-7. Mais monsieur, madame, tout le monde, jamais entendu parler de ça.
Ouais, puis tu sais, j'y étais pendant le temps des fêtes. J'étais là pendant 3 jours. Puis j'ai entendu personne, aucun citoyen américain me parler de Donald Trump. Puis la personne avec qui j'étais m'avait passé une réflexion. Tu sais, quand ça va bien dans ta vie, t'es pas porté à te pencher sur ce qui va constamment mal. Là.
Quand ça va bien, ça va bien.
Quand ça va bien, ça va bien. Puis les Américains, ben, pour l'instant, ça semble bien aller. Donald Trump qui parle d'une sortie de crise bientôt. La guerre en Iran, selon lui, ce serait presque fini. Selon tes analyses, c'est-tu une stratégie de communication pour encore une fois faire bouger la bourse ou c'est presque fini pour de vrai?
Ah, c'est 2 semaines pour aplatir la courbe, Marceau. Dans deux semaines, c'est fait.
Tu me rappelles des cauchemars, aplatir la courbe.
Ah, écoute, là, regarde, je pense que Arruda pourrait faire les points de presse de Trump.
Ouais.
Non, mais pas de joke, là, 2 semaines, c'est rendu un running gag. Ça fait 3 mois qu'il nous dit 2 semaines. Fait que non, je crois pas que c'est réglé d'ici 2 semaines. Là, en ce moment, c'est des négociations. Fait que là, il a arrêté de se taper sa gueule, tout le monde. Là, il y a le blocage du détroit par les États-Unis. Là, ça, il a utilisé la carte reverse du jeu d'Uno. Là, tu sais, il a dit, c'est pas toi qui bloque, c'est moi. Là, ça s'est fait de même.
Je savais pas que c'était miné.
Ouais,
je savais pas qu'on avait mis des mines.
Ouais, au début, on en avait parlé au début du blocus.
Ouais. Pour faire exploser des bateaux qui seraient portés à vouloir passer sans que j'étais sûr que c'était avec des missiles. Que l'Iran était capable d'atteindre les bateaux. Mais là, c'est vraiment des mines sous-marines. Puis là, on s'affaire à déminer ce passage-là.
Ouais, tu sais, la stratégie iranienne, c'était pas la masse de moyens d'attaque, là, tu sais, la masse de missiles, la masse de drones, c'était la possibilité de. Puis les mines, c'est la même affaire. Il y en a une dizaine dans un... Le détroit, il est pas si gros que ça, mais ultimement, c'est quand même un bon point d'eau, là. Fait que tu le sais pas son où, son comment, puis évidemment, un pétrolier a pas les moyens de détecter ça en roulant sur l'eau. Donc là, cette menace de la possibilité de, tu veux-tu vraiment prendre le risque d'envoyer ton super tanker qui doit valoir 200 millions sur l'eau pour peut-être pogner une mine qui traînait par là? Bon. Là,
surtout les compagnies d'assurance qui veulent pas, là.
Ben écoute, il y a bien du monde qui ne veut pas ça. Ouais. Mais là, je me dis, si la plus puissante navy de l'histoire de l'humanité, de tout l'univers au complet, a pas déminé là le channel, puis là, c'est quand même beaucoup d'eau, on se comprend, mais tu sais, imagine si c'est une guerre, puis tu as mis une dizaine de mines dans ce détroit-là, puis tu as besoin de passer, puis ils peuvent pas. C'est parce que là, il y a des moyens qui manquent. Là. Donc là, je crois pas vraiment que c'est ça l'argument. Personnellement, ma lecture de tout ça, quand on a vu que... les États-Unis bloquaient le détroit, c'est que Trump allait charger un péage pour passer. J'étais convaincu qu'il allait annoncer ça, puis c'est pas fini, fait que c'est pas impossible.
Et tes fameux tarifs.
Je te jure.
Les tarifs de Donald Trump.
Ouais, c'est pas fou.
Parce que l'Iran le fait en ce moment, puis je pense qu'il a été jaloux parce qu'il a dit hey, pourquoi les autres font un charge puis pas moi?
Fait que, ouais, voyons donc, Krim, ils prennent mon livre.
C'est ça, c'est moi qui fais ça.
C'est moi.
C'est mon pizza aussi. fait que là, tu sais, l'espèce de... Parce que là, le détroit, il y a comme des îles à travers, puis là, ça passe du côté iranien ou dans les eaux internationales. Bon, fait que là, du côté iranien, là, il y avait un channel qui était actif à cet endroit-là, puis là, ils chargeaient un tarif, je parle les Iraniens. Donc, je pense que Trump a fait comme... ça devrait être nous autres qui fait ça. Fait que là, l'espèce de blocage s'applique pas à tous les navires. Les navires internationaux qui sont pas liés à l'Iran, qui vont pas transporter du stock iranien rentré ou sorti, ils peuvent passer quand même. Mais là, on bloque les ports iraniens. Il n'y a rien qui sort, rien qui rentre. Ou à peu de choses près, là, parce que j'ai lu encore ce matin qu'il y a un super tanker qui avait passé, qui était affilié à l'Iran. Il était-tu vide, il était-tu plein? Là, l'histoire n'est pas claire encore. Donc là, c'est comme un peu une situation fluide, mais au final, quand tu es au Pakistan, à Islamabad, pour négocier ça, c'est comme... Les États-Unis n'ont pas le pouvoir là-dedans, ils n'ont pas le gros levier. C'est la plus grande puissance de la planète, puis ils sont comme « Hey, ça te tenterait-tu, s'il te plaît, qu'on fasse un deal? T'sais? Peux-tu, s'il te plaît, dire oui? » Parce que l'Iran est comme « Je vais attendre mes conditions, puis si jamais ça fait pas le détroit, je vais le refermer, puis j'enverrai un missile. Puis là, les États-Unis, c'est comme, ouais, mais il me semble qu'on est prêt pour un deal. Là. Non, mais dans deux semaines,
mais
c'est fait. Là.
Mais ouais. Pourquoi le rapport de force est inversé de même?
Parce que, tu sais, dans le fond, c'est comme l'espèce de maladresse du gouvernement Trump, puis tous les gros gouvernements aux États-Unis ont fait un peu la même histoire. C'est que le levier de puissance, là, c'est pas le nombre de jets que tu as dans les mains. C'est la proportion de la menace que tu vas faire. Dans le sens que les États-Unis, s'ils attaquent l'Iran, ils vont tout faire péter. Ça fait 3 semaines qu'ils le font. Militairement, c'est clair que ça va fonctionner. Mais après ça, il se passe quoi? Ils n'ont pas de levier local. Tu comprends? Alors que l'Iran, ils vont manger des tapes à la gueule. Mais après ça, ils sont encore là, eux autres. Là. Physiquement, l'Iran n'a pas changé de place.
Oui. Puis là, c'est là que la stratégie était mal établie, dans le sens qu'ils ont pensé que le peuple allait se soulever à nouveau et prendre les pouvoirs, mais c'est pas arrivé parce que le peuple s'est fait sniper par l'administration. Là.
100%.
Le Pakistan, pourquoi il est impliqué là-dedans?
Parce que c'est comme un peu les chums des deux bords, là, parce que le Pakistan...
C'est les chums des deux bords. Rappelle-moi où Oussama Ben Laden a été retrouvé.
Pas mal au Pakistan, sur le bord.
À combien de kilomètres de la première base militaire?
Genre 1,5, là. Non, pour vrai, c'est pas des
les
alliés.
Les choses changent.
Ouais.
Mais c'est pas des alliés fiables. Là. C'est ça, en Afghanistan, puis il y a sûrement des vétérans qui pourraient beaucoup plus en parler que moi, là, mais... T'sais, le Pakistan, c'était quand même un mal nécessaire. Là, parce que la zone tribale entre l'Afghanistan et le Pakistan, là, c'est comme un no man's land. Il n'y a rien là-dedans. Là. Puis ça passait, c'était une passoire, cette frontière-là. Fait que, non, c'est pas des bons partenaires, mais ça reste que dans ce cas-ci, c'est un pays musulman qui est comme un peu entre les deux puis qui a des intérêts lui-même aussi là-dedans.
Ils ont caché Ben Laden pendant quoi? Presque 10 ans. Là. Puis finalement, on est rendu à négocier avec eux dans le but de mettre fin à la guerre. Est-ce que les Chinois sont bien impliqués? Est-ce qu'ils sont impliqués dans les négociations? Est-ce qu'il y a des Chinois qui sont en Iran présentement?
Physiquement, en Iran, je ne sais pas. Je pourrais pas te le dire, mais je présume que oui, là, parce que... la Chine, l'Iran et la Russie, ça reste quand même un axe de collaboration très, très fort. La Chine joue bien ses cartes là, parce qu'ils ont de l'influence. Ils ont envoyé des armes quand même pendant le conflit ou en tout cas de l'équipement. Là, c'était pas clair qu'est-ce qui avait rentré. Eux, ils ont tout intérêt à influencer la situation sans s'impliquer directement parce que la sagesse chinoise en géopolitique, c'est de ne pas avoir aucune implication directe dans aucun conflit depuis la guerre civile. Il y a eu la guerre de Corée peut-être, là, mais à part ça, là, clairement, il n'y a jamais leur empreinte nulle part, mais ils sont influents partout dans le monde. Donc là, en ce moment, c'est ce qu'ils font. Ils essaient juste d'aligner ça parce que pour la Chine, le gros défi, c'est l'énergie. Rappelons-nous que le Venezuela, qui a été fermé le robinet, puis que là, ça s'en allait beaucoup en Chine, ils ont perdu cette option-là. Fait que là, l'Iran reste un point important pour aller rentrer de l'énergie en Chine.
Puis la Chine prend son pétrole de où présentement?
Pas mal de la Russie. Mais l'Iran reste quand même un bon fournisseur. Possible. T'sais. Mais la Russie, eux autres, ils se tapent la bedaine parce que rappelons-nous qu'il y a une guerre en Ukraine, on n'en parle presque plus. Sauf que eux, la Russie finance cette guerre-là avec le pétrole qu'ils vendent à grands coups de centaines de milliards, même en Chine. Là. Donc là, cet axe-là de collaboration est super important. Puis la Chine, là-dedans, je ne pense pas qu'ils sont là pour prendre la domination de la planète militairement. Directement. C'est de dire, moi, j'ai besoin d'énergie, puis la façon la plus facile puis la moins contraignante pour moi, l'énergie vient de l'Iran, de la Russie puis des alliés. Donc, c'est là que ça va aller. Mais après ça, si jamais, mettons, la Russie, pour un matin, là, je sais pas trop, là, Poutine pogne une bulle puis il ferme le robinet, ben la Chine n'ira pas défendre la Russie par-dessus tout. Ils vont juste se retourner vers quelqu'un d'autre, ils vont aller chercher l'énergie ailleurs.
Est-ce que J.D. Vance a de trop grandes responsabilités présentement?
Je pense que là, en ce moment, la POC, elle va vite sur la glace pas mal pour cette gang-là. Là. Parce que, rappelons-nous au début du conflit, la stratégie n'a pas été connue publiquement. J'imagine qu'il s'était fait quand même une stratégie à l'interne. Finalement, on a communiqué c'était quoi la stratégie. C'était pas le changement de régime. Là, finalement, on est rendu à négocier pour l'énergie nucléaire. Au début, on disait plus jamais, dans 100 ans, il n'y aura jamais d'enrichissement. Là, à cette heure, on parle d'un moratoire pendant 10 ans. Là, tu sais, ça parle peut-être d'un 3 ans. Tu sais, finalement... Tu t'en vas où avec ça, Buddy? Là,
mais est-ce qu'on lui donne de trop grandes responsabilités parce qu'on veut que ce soit le next one?
Ben, ce qu'on saura jamais, en tout cas avant bien longtemps, c'est-tu Trump qui donne ses calls ou il envoie sa gang puis il laisse négocier tout seul? Parce que, tu sais, je pense que Donald Trump a beaucoup d'influence quand même dans tout ça, puis tu sais, on connaît le personnage, là, on sait comment qui, mais tu sais, je pense que son espèce de flair politique est encore respecté à l'interne. Fait que, tu sais, dans ces genres de négociations-là, de toute façon, selon la loi, c'est le président qui fait le call. Fait que, tu sais, est-ce que J.D. Vance est un peu menotté avec des talking points que le président va inventer entre deux sacs de Uber Eats qui sont livrés de McDo, là? Ou au contraire, il se fait donner les pleins... les pleins pouvoirs de négociation, c'est pas clair. Mais je peux pas vous dire que c'est un grand négociateur à date. Là. Dans toute cette gang-là, il y a Marco Rubio qui a l'air quand même assez raisonnable, mais toute cette gang-là ont l'air vraiment dépassés par les événements. Puis au final, je pense qu'ils vont conclure un mauvais deal pour les States, ce qui va faire que la situation va revenir au statu quo, voire pire.
Crois-tu aux négociations entre Israël et le Liban?
Pas en tout. Tant que Hezbollah va exister, tant que le Hamas va exister aussi en Palestine, il n'y aura jamais de règlement. Là, tout le monde a fait comme, voyons Israël, il y a un cessez-le-feu dans le secteur, tout le monde se tire des missiles à grands coups de dizaines par jour. L'Israël dit, hey, sais-tu quoi, moi, la guerre, je la continue avec le Liban. Puis là, tout le monde a fait comme, what the fuck. Puis là, tu te dis, les États-Unis n'ont pas le levier suffisant avec Israël parce qu'on peut être capable d'arrêter ça.
Ben non, c'est ça, ils sont hors contrôle, là, Israël.
C'est ça. Puis là, ben, tu sais, l'Iran, qui est un grand sponsor du Hezbollah depuis longtemps, se retourne vers les États-Unis en disant, là, t'es-tu sérieux dans ton cessez-le-feu parce que ton plus proche rival, lui, il le respecte pas puis il s'en sac. Fait que là, il y a une négociation qui est ouverte qui, je pense, était. Généré par les États-Unis qui ont dit à Israël le calme tes nerfs parce que ça m'aide pas tout. Ça va-tu donner quelque chose? J'y crois pas zéro. Là. Le Liban abandonnera jamais. En fait, le Hezbollah ne sortira jamais du Liban puis déposera jamais les armes, je pense pas.
David Chabot, merci beaucoup d'être passé. On se reparle lundi prochain, Jeff.
Bien
ça,
sûr.
Lundi prochain. Yes. Donc, je te souhaite de passer.
Merci de t'être levé tôt.
Une belle semaine à Québec.
C'est comme un shooter de votre vie, les gars, puis même pas encore.
Max, la circulation est relativement compliquée déjà pour l'accès aux pompiers à la porte, direction nord. Sinon, Capitale Ouest, tu as toujours des petits problèmes, mais ça se limite, mettons, un peu avant. Henri Bourassa jusqu'à Laurentienne. Très courte pause, on vient.
Marceau le matin. Marceau le matin.